En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Je donne la parole à Bernard Bohen.
Merci.
Qui ne va pas nous parler de travestis, je suppose.
Non, pas exactement.
De vraies femmes et voilà. De vrais militaires.
Voilà, ma communication dans le programme s'intitulait « Des femmes et des unités de combat, réalité et terme d'un débat ». Si j'avais à le reformuler aujourd'hui, notamment après avoir entendu tout ce qui s'est dit depuis deux jours, je dirais « Des femmes, des unités et des fonctions combattantes », ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ça ne se recouvre pas, et puis j'ajouterais « Réalité et terme d'un débat aujourd'hui ». Le sous-titre, d'ailleurs, me donne la structure de mon propos. J'ajouterai que mon traitement ne s'appuie pas sur un travail empirique original. C'est une façon de faire le point, une synthèse sur un état de la question. Et que je ne traiterai que des pays absolument pertinents. Des femmes au combat, il y en a en Norvège, en Suède, au Danemark depuis pratiquement 25 ans. Mais enfin, on ne peut pas dire que le rôle de ces pays-là soit comparable à ceux des États-Unis, de la Grande-Bretagne ou de la France, qui sont des pays clés, notamment au travers de leur influence au sein d'institutions internationales, notamment de l'OTAN. Alors, le point de départ, ce sera mon introduction, c'est que des femmes au combat à titre normal, c'est une véritable rupture anthropologique, puisque là, Marion Trévisi a travaillé pour moi ce matin en vous indiquant qu'il y a beaucoup d'épisodes, mais enfin, ils sont tous anecdotiques ou empreints d'une singularité historique et qu'ils font figure rétrospectivement de parenthèses. Que au tout début du processus, il n'est pas question de femmes au combat, mais il est question de femmes dans l'armée. Le processus est à double détente, et que les femmes dans l'armée régulière, formelle, organisation formelle, c'est relativement nouveau, si on veut bien se souvenir qu'au début des années 70, elle représentait 2% au mieux des effectifs, parfois zéro dans certains pays. Alors qu'en 2012, les dernières statistiques que j'ai pu trouver, au sein de l'OTAN, les 28 pays, la moyenne est à 10,5%, ce qui fait multiplier par 5 au moins, et parfois beaucoup plus quand les chiffres de départ étaient plus faibles, que la France est dans le peloton de tête avec 15,1%, que les États-Unis sont pas loin derrière avec 14%, et que le Royaume-Uni, lui, est un peu en retrait, c'est juste en dessous de la moyenne, à 9,7%. On peut apprécier le phénomène des femmes dans l'armée, non pas encore au combat, en termes d'intégration, puisque au début des années 70 encore, les quelques femmes sous l'uniforme qui existaient étaient réunies dans des unités purement féminines, alors que petit à petit, pays par pays, ces unités ont été dissoutes et que les femmes se sont répandues à peu près dans toutes les subdivisions de l'institution militaire. Les discriminations diverses qui existaient ont peu à peu été érodées. Je crois que le moment décisif, au moment de la bascule d'à peu près tous les pays, c'est l'an 2000. Après l'an 2000, on ne trouve plus beaucoup de discrimination, à l'exception du combat, point sur lequel je vais revenir. Alors, quelles sont les raisons de cette irruption des femmes dans l'institution militaire ? Bon, il est clair que ça doit beaucoup à l'évolution des sociétés démocratiques occidentales, démocratiques donc égalitaires, où toute restriction de la liberté de choix, un processus marqué d'individualisation des rapports sociaux, toute liberté de choix, tout statut assigné, toute restriction de la liberté de choix et tout statut assigné sont rejetés, peu à peu, et que ça donne lieu à un double mouvement de dédifférenciation sociale et de diversification culturelle. Double mouvement qui ne pouvait pas être absolument ignoré des militaires pendant très très longtemps, sous peine de manquer à leur impératif sociopolitique d'harmonie minimum avec la société dont ils sont issus. Deuxième facteur, sans doute plus immédiat, ça doit beaucoup à l'abandon de la conscription par ces mêmes pays. Vous savez que c'est la tendance maîtresse en matière institutionnelle militaire depuis maintenant un certain temps, qu'il y a encore 20 ans, les pays qui avaient conservé la conscription étaient majoritaires et qu'aujourd'hui, ils sont une toute petite minorité. La conscription était entièrement masculine. Il n'a jamais été question d'étendre la conscription aux femmes, sauf peut-être en Suède, où c'était une revendication des féministes locales. On est donc passé à des armées entièrement professionnelles. Et ces armées entièrement professionnelles, elles connaissent de manière chronique des déficits de recrutement. Alors, ils ne sont pas dramatiques. C'est toujours 1, 2, 3%. Mais c'est vrai en dépit de besoins en recrutement définis de manière continuellement révisée à la baisse. Alors, pour faire face à ces déficits de recrutement, qui tiennent au fait que le vivier des jeunes gens qui montrent une propension à s'engager en l'armée est un vivier limité. En France, François Cailletot, il y a maintenant 25 ans, l'évaluait à environ 150 000 jeunes gens. Ça explique pourquoi d'ailleurs l'armée de métier française a été fixée à 135 000. 150 000 moins 10% pour être sûr, de prendre un peu d'avance sur les effectifs de l'armée professionnelle britannique depuis qu'elle existe, enfin depuis qu'il y a un retour à l'armée professionnelle, c'était la tradition britannique, 1963, ils n'ont jamais cessé d'être grignotés demi-pourcent par demi-pourcent, avec deux parenthèses très très éphémères qui sont la guerre des Malouines et le début de la guerre d'Irak. Voilà. Donc c'est le destin normal. Et on ne s'étonne plus dans ces conditions de voir que les armées se sont tournées vers d'autres viviers que les viviers traditionnels et qu'ils ont trouvé que les femmes, c'était de marqueur pas si mal que ça. D'autant qu'en moyenne, elles ont un recrutement d'une meilleure qualité, du moins étalonné selon le niveau scolaire. Sans les femmes, en plus des déficits qu'on connaît, il y aurait des déficits supplémentaires de 5 à 10 ou 12% selon les pays, selon les moments, en plus. Et il aurait sans doute fallu augmenter les soldes à l'engagement pour le rendre plus attractif. Et donc on imagine qu'à des périodes où le budget de la défense est sous pression, on est très très content d'avoir des femmes. Le processus a connu des fortunes diverses selon l'endroit. Parmi les trois pays que je considère ici, le seul à avoir connu un processus apaisé, c'est la France. Parce qu'aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ça a donné lieu à des crispations et d'épisodes acrimonieux dont je vais vous donner le détail maintenant. Alors, pour ce qui est des réalités, on va commencer par les États-Unis, la situation américaine est marqué par une décision de 1994, il y a 22 ans, qui interdisait aux femmes tout accès aux fonctions combattantes. On se demande bien pourquoi il y a tout à coup une décision formelle qui vient préciser une pratique ancestrale, on pourrait dire. Ça avait toujours été comme ça jusque-là. Simplement que l'administration en place, qui était celle de Clinton, est assiégée par des activistes féministes et qu'il faut faire face à cet assaut idéologique. Alors, l'interdiction va être levée en 2013. L'annonce est faite en 2013, mais elle a à peine commencé au jour d'aujourd'hui et donc on n'a pas de chiffres significatifs à se mettre sous la dent. Beaucoup trop tôt. Et les raisons de ce renversement de politique sont tout à fait dignes d'être examinées. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les armées américaines ont consenti à ça, puisque le débat continue de faire rage avec un camp conservateur et un camp dit progressiste, et que, par exemple, le général pressenti pour devenir le nouveau chef d'état-major interarmé, JCS, est quelqu'un de connu pour son hostilité à l'idée de femmes au combat. Donc l'issue du débat n'est pas encore donnée. S'il y a eu ce renversement, c'est à cause des embarras juridiques dus à une formulation que, a posteriori, on peut juger un peu maladroite, floue, en tout cas inadaptée. Elle comportait notamment deux distinctions. Distinction entre des missions dites de routine et des missions primaires, et puis une seconde distinction qui déjà recoupe la première, ce qui évidemment pour la clarté n'est pas excellent, entre combat indirect et combat direct. Et vous imaginez que les missions primaires et le combat direct n'étaient pas faites par les femmes dans cette directive. Le combat direct étant défini par le risque élevé de capture par l'ennemi et une position en pointe dans le dispositif, well forward on the battlefield, ce qui ne manquait pas de poser problème, comme on s'est aperçu au bout d'un certain temps, parce que dans l'art de la guerre d'aujourd'hui, les fronts linéaires sont l'exception plutôt que la règle, et que malgré l'interdiction faite aux femmes de servir dans des fonctions combattantes, 130 militaires féminines américaines ont été tuées en Irak, et deux d'entre elles, deux autres, ont reçu la Silver Star, qui est une des médailles les plus prestigieuses en matière de valeurs militaires. Voilà. Et donc, c'était fait donc pour souligner l'inanité de la norme telle qu'elle avait été formulée. Il y avait une troisième disposition dans cette directive qui était l'absence de colocation, c'est comme ça qu'on dit, l'interdiction faite aux armées d'affecter des femmes à proximité immédiate d'unités opérationnelles susceptibles de partir en opération extérieure très vite. Alors là, on s'interroge, soit le souci, c'était d'éviter de rendre ces unités opérationnelles dépendantes administrativement, organiquement, logistiquement, de femmes dont elles seraient privées à l'extérieur, l'interprétation la plus charitable, ou alors on voulait éviter absolument toute liaison de type amoureux qui aurait perturbé un certain nombre de choses, et là ça... Si c'est la bonne interprétation, bien sûr, on serait carrément dans l'argumentaire conservateur, comme j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure. Donc, on revient sur cette décision, on l'annonce du moins il y a 3 ans, et elle commence tout juste à être pratiquée. Pour ce qui concerne le Royaume-Uni, c'est encore mieux. Le Royaume-Uni permet l'accès des femmes à des postes de combat, mais leur interdit, encore aujourd'hui, toute affectation dans l'infanterie et dans les chars, autrement dit dans les deux armes de combat. Ils ont fini par prendre conscience de l'incongruité de la chose, et donc fin 2014, au mois de décembre, il y a eu une annonce disant que à partir de 2016, les rôles combattants, les fonctions combattantes seraient ouvertes aux femmes. Option qui a été confirmée il y a 2, 3, 4 jours par David Cameron, Premier ministre. Alors, les raisons de ce renversement, là aussi, sont les mêmes. Hein, c'est pression sociétale plus irréalisme de l'interdiction. À quoi s'ajoute, dans le cas britannique, la peur de paraître arriéré ? J'ai trouvé ça dans le Guardian, par exemple, qu'il était plus que temps de passer à plus d'ouverture aux femmes parce qu'on risquait de se trouver parmi les nations les plus arriérées et qu'on ferait bien de prendre modèle sur ceux qui ont déjà sauté le pas depuis un certain temps, les pays scandinaves, mais aussi la France. Alors, ça, on donne la transition pour la France, voilà que le cas français est des trois le plus intéressant. Il n'y a plus d'ostracisme officiel à l'égard des femmes au regard du combat depuis... 1998, qui est la date à laquelle Alain Richard a supprimé les derniers quotas. Parce que là, il y avait des quotas d'affectation. Donc, officiellement, les femmes ont accès à toutes les fonctions. De fait, on enregistre encore quelques déserts féminins. La gendarmerie mobile, la Légion étrangère et les sous-marins. Ce qui est justifié d'habitude par le risque de promiscuité dans l'action. Bon. Confinement sous-marin, on imagine que ça pose problème, etc. Mais là-dessus, même ces exceptions de fait sont en train de disparaître, puisqu'on apprend que les escadrons de gendarmerie mobile sont en train d'expérimenter la mixité, que le ministre Jean-Yves Le Drian se dit en train de réfléchir à la même chose pour la Légion étrangère et que les femmes seront admises dans les sous-marins à partir de 2017, l'année prochaine. Donc il y a une évolution en cours et on pourrait dire que les choses sont en marche. L'égalité totale au regard des fonctions combattantes pour les femmes n'est plus très éloignée. Sauf que quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit qu'ils ne suivent pas, puisque elles sont très très peu nombreuses dans les spécialités de combat. On a du mal à trouver les chiffres. Le seul chiffre que j'ai trouvé est d'origine journalistique, c'est 2%. Je pense que les journaux, les correspondants défense, les grands journaux ont leurs sources. Moi, je dois dire que je n'ai pas trouvé le bon interlocuteur au sein de l'appareil de défense, où j'ai quand même séjourné pendant 25 ans. Savoir qui détient la bonne information là-dessus. Je vais encore chercher avant de produire ma version écrite. Mais on a une confirmation par ailleurs quand on s'aperçoit qu'il n'y a que 6,8% en 2011 de femmes parmi les effectifs envoyés en opération extérieure. Sachant qu'être envoyé en opération extérieure ne veut pas automatiquement dire que vous êtes dans une fonction combattante, même qu'elles sont minoritaires parmi celles qui sont là. Je me souviens d'une conférence donnée par un bataillon de chasseurs alpins à Chambéry il y a 5 ans, le retour d'opération extérieure, ils étaient 800 à partir, il n'y avait que 20 femmes. Donc ça ne garantit pas que... toutes celles qui étaient au bataillon et dont on aurait pu dire qu'elles auraient pu participer au combat, elles étaient réduites à 20, ce qui veut dire, selon moi, 2% et demi, c'est ça. Voilà. Bon, si ce n'est pas 2%, c'est 2% et demi, 3% ou 4%, ça ne change pas grand-chose sur le fond du raisonnement. Et, sous réserve que je trouve le bon chiffre, on va accepter cette idée. On a notre confirmation quand on regarde le site du ministère de la Défense aujourd'hui, j'ai fait ça encore il y a 2 jours, qui précise les spécialités qui sont les moins féminisées et les plus féminisées. Les moins féminisées dans l'ordre, infanterie, armes blindées, cavalerie, forces spéciales, fusiliers marins, commando, etc. Transport, notamment conduite des véhicules, maintenance, sécurité, incendie, etc. Quand on réfléchit à ce qu'il y a de commun dans cette liste à l'après-verre, il y a vraisemblablement le danger, l'urgence des conditions de travail, des horaires de travail complètement inhabituelles. Et quand on regarde dans la colonne d'en face les spécialités les plus féminisées aujourd'hui, on trouve le soin, médecine, mais soins infirmiers. Savoir qu'il y a maintenant plus de la moitié des médecins militaires qui sont des femmes, et encore mieux dans les soins infirmiers. Administration générale, comptabilité, gestion des ressources humaines, télécommunication, exploitation du renseignement militaire et soutien à la fois des matériels et des personnels et logistique. Autrement dit, les femmes militaires qui représentent 15%, quelque chose, des effectifs militaires d'aujourd'hui ont beaucoup plus de chances d'être dans des bureaux ou derrière des consoles informatiques que sur le terrain en opération. Alors, on se perd en conjecture. En théorie, tout est ouvert. Dans les faits, il n'y a qu'une infime minorité. Alors, est-ce que c'est l'effet d'une socialisation traditionnelle à un âge précoce. Les filles qu'on habituerait au rose plutôt qu'au bleu et à qui on ferait comprendre dès le plus jeune âge que les choses viriles, c'est pas pour elles. Est-ce que c'est une motivation extrinsèque à l'engagement ? On pourrait s'engager pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la fonction ultime des armées et pour la sécurité de l'emploi ou le prestige de l'institution. Dans les entretiens, se vérifie assez facilement. Est-ce que c'est une résistance souterraine de l'institution ? On pourrait imaginer ça. Est-ce que c'est le peu de goût spontané des femmes pour le combat ? Là, ça renverrait à des questions complexes, à la nature féminine et à l'équilibre entre ce qui est construit et ce qui est donné dans l'identité des femmes, ou plutôt de chaque femme, parce que là, il faut s'abstenir de toute généralisation. Est-ce que ça tient à une perception par les femmes d'une norme de virilité qui, a priori, les exclut ? J'ai connu ça quand j'étais professeur à Saint-Cyr, où c'est un des seuls endroits en France où ça pose problème, parce que la simple présence de femmes avec le même uniforme qu'eux parmi les jeunes Saint-Cyriens qui se rêvent en train de refaire Jane Bienfou de manière particulièrement virile, pour qui la virilité est centrale, est un affront, est la négation de tout ce à quoi ils aspirent, etc. etc. Et là, on a vraiment un des seuls endroits où ça pose véritablement problème. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière de concilier la vie de famille avec les affectations de combat ? Je pense que la question pose difficilement, ne pose pas de grosses difficultés. Enfin, on pourrait imaginer qu'il y a un conservatisme culturel des femmes militaires, dont une bonne partie, on le sait, viennent de familles militaires, qu'elles ont déjà absorbé la culture de l'institution et qu'elles se diraient que finalement, c'est pas pour nous. Toutes ces hypothèses sont plausibles. On ne sait pas quel est le rôle de chacune d'elles, leur poids relatif. Il est vraisemblable qu'il y en a un certain nombre de jeux qui jouent simultanément, mais comme il y a en l'absence d'études, il y a beaucoup d'études sur les femmes militaires, mais sur ces points-là, qui sont les plus, de mon point de vue, les plus centraux, il n'y a pas grand-chose. Pas rien. Alors, si le cas français est bien documenté maintenant, après une expérience de, ça fera bientôt 20 ans, 2016, 18 ans, il n'a pas donné lieu à controverses de type idéologie. On a la situation complètement inverse dans les deux grands pays anglo-saxons. Inverse l'image qu'on a d'habitude. Hein. Si un pays parmi les trois qui est susceptible d'être en proie à la fièvre idéologique, c'est plutôt la France, et d'autres en proie au pragmatisme et à l'empirisme, c'est plutôt les deux autres. Et ça se comprend quand même parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Et quand on n'a pas d'expérience concrète de la chose, qu'on n'a pas de chiffres à se mettre sous la dent, on en est réduit aux valeurs, affirmations de valeurs, généralement univoques, et donnent lieu à des oppositions frontales. Je crois que l'expérience française est de nature à permettre, dans une certaine mesure, d'arbitrer dans les débats qui ont cours aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et par extension, ailleurs, par dérivation ailleurs. Alors, j'en viens donc au terme du débat, parmi les arguments échangés, il y en a qui sont anciens. On les avait déjà entendus il y a 40 ans, au moment de la première poussée de féminisation, à partir des années 70-80. Premier tient à la force physique. Les femmes ont 30% de force en moins dans la partie supérieure du corps, en moyenne. Mais justement, comme ferait valoir les féministes ou les progressistes, ce n'est qu'une moyenne, mais qu'en réalité, il y a une grande variabilité individuelle qui fait que certaines femmes font beaucoup mieux de ce point de vue que certains hommes. Et puis, de toute façon, l'art de la guerre aujourd'hui est tel qu'il faudrait vraiment le corps à corps et le combat à la baïonnette pour que ça fasse une différence majeure. Or, le combat à la baïonnette, même en 1914, il n'a pas eu la centralité qu'on lui prête parfois. On pourrait sans doute répondre la même chose des fragilités particulières prêtées aux femmes, des fragilités émotionnelles. Là, le bilan empirique est moins net. Et d'ailleurs, Michel Battesti, hier, à table, me faisait remarquer que, aux dernières nouvelles, il y a plus de femmes que d'hommes dans les armées françaises aujourd'hui qui souffrent du syndrome post-traumatique. Donc il y a peut-être anguille sous roche, là, il faudra regarder d'un peu plus près. Le troisième argument soulevé par les conservateurs, c'est une possible instrumentalisation par l'ennemi de ce qu'ils considèrent comme la faiblesse des armées occidentales, c'est-à-dire leur familiarisation, et que cet ennemi pourrait s'en prendre de manière ciblée aux femmes pour leur valeur symbolique, en les faisant prisonniers, en les tuant, de telle manière que ça a eu un écho dans l'opinion publique. Alors le camp adverse a beau lieu de... un beau jeu de faire remarquer que ça fait déjà un petit bout de temps que les opinions publiques occidentales sont habituées à voir des femmes dans des métiers auxquels elles n'avaient pas accès jusque-là, et que ça, vraisemblablement, ne ferait pas de différence, et qu'en tout état de cause, les femmes, du moins les plus militantes, ne réclament aucun égard particulier sur ce point. Un autre argument classique, déjà entendu, c'est la disponibilité réduite des femmes. C'est qu'il faut une femme, 1,15 pour remplacer un homme, pour les raisons liées essentiellement à la maternité, mais aussi au fait qu'elles ont des carrières plus courtes. Une incidence peut-être aussi sur les de leur propension à avoir des congés, des arrêts de maladie. Bon, ça, je pense que c'est un argument qui ne porte plus parce que on a eu le temps de s'habituer et que l'habitude maintenant est prise d'accommodement plus que raisonnable pour absorber ça. L'argument suivant est beaucoup plus sérieux. L'argument suivant, c'est celui du male bonding, c'est-à-dire des liens de cohésion et de solidarité entre hommes au sein des petits groupes, des groupes primaires, c'est-à-dire des groupes inférieurs à la section, au niveau tactique, dont toute une littérature classique, depuis Charles Ardan du Pic, 1870, au classique américain de la Deuxième Guerre mondiale, Samuel Stauffer, étude de psychosociologie dans la Deuxième Guerre mondiale, 1949, et puis surtout... Roy Grinker et John Spiegel, la Bible des psychiatres militaires, 1945. Cette littérature-là, il y en a d'autres, Janowitz et Shields, bien connus à cause de la traduction de Dampierre et Madras. Cette littérature-là disait que la clé de la cohésion des groupes primaires, eux-mêmes conditions nécessaires d'un moral collectif élevé, était l'homogénéité sociale, notamment en termes de âge, sexe, région d'origine, nationalité, religion, etc. Janowitz et Shields faisaient remarquer en 1948 que la Wehrmacht avait résisté jusqu'au bout et ne s'est effondrée qu'à partir du moment où les unités ont été confectionnées de briques et de brocs dans l'urgence, tout à fait à la fin. Tant que la structure de la Wehrmacht avait maintenu une homogénéité sociale au niveau des petites unités, tout ça avait tenu le coup, y compris à un moment où elle n'arrêtait pas de reculer sur les deux fronts. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois que l'argument est sérieux. Les femmes pourraient introduire de la concurrence affective, troubler la cohésion et la solidarité des gens. L'argument est sérieux parce que la littérature sur laquelle elle se fonde est elle-même sérieuse. Sauf que c'est une littérature qui concerne des armées de mobiliser à titre obligatoire, obligation de servir, engagé dans une guerre totale où les risques étaient tout à fait considérables. Aujourd'hui, on a affaire à des volontaires, des engagés volontaires, je ne parle pas des cadres, je parle du rang, des engagés volontaires qui s'auto-sélectionnent, si j'ose dire, qui sont longuement socialisés et pour lesquels les risques du combat, statistiquement, quand on regarde les pertes par rapport aux effectifs, sont nettement moindres qu'avant 1945. Et donc je pense que. Et puis ensuite, qui viennent de sociétés devenues culturellement diverses et qui ne sont plus habituées à l'homogénéité sociale. Donc je pense que la réalité qui sert de substrat à la littérature d'avant 40, enfin, ayant trait à la Deuxième Guerre mondiale et avant, cette réalité-là n'est plus là. Et qu'on peut se poser la question de savoir si on ne peut pas réfléchir à nouveaux frais et en termes nouveaux sur ces questions. D'ailleurs, les débuts de littérature sur ces questions depuis une dizaine d'années vont plutôt dans ce sens-là. Elles nous disent que c'est plus en termes d'homogénéité sociale, à quoi on est plus habitué dans les sociétés, qu'en termes de fierté de mettre en œuvre des compétences, fierté du professionnalisme, mettre en œuvre des compétences en vue d'une mission commune qu'on cherche à réussir, que les choses se définissent aujourd'hui. On a vu apparaître une chose nouvelle. Alors, jusque-là, mes arguments étaient déjà anciens, ils étaient simplement. Ils recevaient une couche de peinture pour les rénover un peu. L'argument que j'ai trouvé nouveau, qu'on trouve essentiellement au Royaume-Uni, celui du général Sir Michael Rose, qui a été commandant en Bosnie il y a maintenant 20 ans, qui est un homme que j'ai rencontré plusieurs fois, tout à fait affable, mais qui, dans ce qu'il dit, peut être extrêmement raide, puisque c'est celui qui demande publiquement que Tony Blair soit traduit en haute cour à cause de l'envoi de troupes en Irak dans une mission impossible à réussir. Qu'est-ce que dit le général Sir Michael Rose, il n'est pas le seul, que c'est la version douce de quelque chose d'autre dont je vais parler tout de suite. Il dit les armées sont débordées par toutes les missions qu'on leur donne depuis maintenant 20 ans et plus. Et elles ont mieux à faire que de servir de laboratoire social pour des expérimentations douteuses qui ne résultent que des pressions d'activistes irresponsables. Bon, il se peut qu'au bout d'un certain temps, on s'habitue à la chose, mais pour l'instant, on a mieux à faire que ça. Voilà. Et sur cette base, il demandait, pour être à l'abri des pressions sociétales venues de l'extérieur, il demandait qu'on reconnaisse aux armées un droit à être différent, « right to be different ». Son ministre, je pense conseillé par un certain nombre de mes camarades britanniques, lui a répondu qu'il y avait sans doute « a need to be different », mais qu'il était à justifier en chaque cas, ce qui revient à inverser la charge de la preuve. Il faut aux armées montrer qu'elles ont besoin sur tel point d'être effectivement différentes, ce qui ne me semble pas une mauvaise position. Alors, ce dont je me suis aperçu, c'est que cet argument, c'est la version contemporaine, rénovée d'un argument beaucoup plus ancien qui remonte au père fondateur de la République américaine, en fait, à John Jay et à Alexander Hamilton dans les Federalist Papers, c'est-à-dire les œuvres qui ont influencé et informer les dispositions qui ont été retenues dans la Constitution américaine, puisque les Federalist Papers ont été publiés en 1787-1788. Qu'est-ce que disent John Jay et Alexander Hamilton, tous les deux, dans des termes un peu différents, que les Américains sont attachés à leur liberté, mais qu'en deçà de la liberté, il y a sécurité qui est sa condition nécessaire. Toutes les libertés dont nous jouissons ont pour condition la sécurité, et que donc toutes les missions qui ont trait à la préservation de la sécurité doivent avoir précédence, avoir priorité sur les libertés. Et donc, tout ce qui entache ou endommage la capacité opérationnelle, l'efficacité combattante des armées dans la défense humaine, doit être absolument proscrit. C'est au nom de ça qu'il prescrivait contre toute une opinion publique qui disait le contraire à l'époque, la formation d'une armée américaine régulière. C'est jusque-là un tabou. Ce dont on constate l'absence dans tout cet argumentaire, c'est l'argumentaire essentialiste qui n'est pas là. Celui qui renvoie à une essence, une nature féminine ou une essence. Alors, cet argumentaire, la dernière fois qu'il a été énoncé de façon ouverte et assumée, et brillante et truculente, je dois le dire, c'est par un auteur qui n'est pas anglo-saxon, mais qui est en fait israélien, et qui est très lu et souvent consulté aux États-Unis. Je veux parler de Martin Van Creveld, professeur dans une université israélienne, je vous dénonce, je crois que c'est Bar-Ilan. Qu'est-ce que nous dit Van Creveld dans son livre de 2001 qui s'appelle « Men, Women and War » il nous dit qu'il y a une nature féminine qui est vouée à donner la vie plutôt qu'à l'ôter et que la place des femmes est dans le foyer à s'occuper de la progéniture. Alors, c'est un discours qui n'est plus présent parce que vraisemblablement, que je fais l'hypothèse qu'il a du mal à être entendu aujourd'hui. Si vous réfléchissez bien à la question, il est en filigrane dans l'argument précédent, tel qu'énoncé par exemple par les conservateurs américains sur le site de la Heritage Foundation. Tout ce qui peut endommager l'efficacité combattante est à proscrire. Mais qu'est-ce qui peut endommager l'efficacité, notamment la présence des femmes? Et pourquoi? Parce qu'elles ont une nature qui... ça n'est plus audible, et donc on ne l'entend plus. Qu'est-ce que nous dit, pour préciser, Van Creveld? C'est en fait un plaidoyer contre la dédifférenciation sociale des hommes et des femmes, en voulant s'immiscer dans un domaine qui n'est pas le leur, le combat, les femmes courent le risque d'y laisser leurs qualités et leurs attributs psychologiques, mais aussi physiques. Il cite l'exemple d'un officier féminin américain de ses amis qui, pour avoir voulu faire aussi bien que ses camarades hommes dans une marche forcée à l'entraînement, a perdu ses ovaires, c'est-à-dire sa fonction reproductrice. En bon historien, c'est un historien, il mobilise le cas des célèbres guerrières du Dahomey au XIXe siècle pour montrer qu'elles avaient renié leur féminité et qu'elles en venaient à mépriser les autres femmes. Je cite, « Leur destin n'a été ni enviable ni risible, mais simplement tragique. » La démonstration ne s'arrête pas là, chez Van Creveld. La présence de femmes dans les unités de combat fait baisser le niveau de préparation des hommes, les démoralise en émasculant la fonction et prive les armées de futurs combattants pour qui la virilité, qualité désirable en opération, est centrale et qui pour cette raison se détourne du service sous les armes. La conclusion est imparable. Les femmes dans les armées transforment l'entraînement en farce, humilie les hommes et gaspille des ressources précieuses en exigeant des toilettes séparées, le suivi de leur grossesse et des uniformes spéciaux. Je l'ai vu à Tel Aviv, Bar-Ilan raconter ça, c'était en 2002, c'était tout à fait truculent et on riait beaucoup, mais on comprend pourquoi ce discours-là n'est plus réutilisé ni aux États-Unis, ni En Israël, je ne sais pas. Sans doute parce qu'on s'est habitué à, au fil du temps à voir des femmes investir des métiers jusque-là entièrement masculins sans que ça désorganise les choses au-delà des accommodements nécessaires, ce discours ne passe plus. Alors, pour conclure, je crois que, en définitive, les argumentaires de part et d'autre du débat privilégient chacun l'un des deux impératifs qui structurent l'action militaire, et bien sûr, ce n'est pas le même impératif dans chaque camp. Les conservateurs mettent l'accent sur l'impératif de fonctionnalité des armes, c'est-à-dire d'efficacité combattante. Ils le font dans des termes qui peinent un peu à convaincre. J'ai essayé de vous le montrer. Tandis que le camp d'en face appuie son discours sur l'impératif d'harmonie entre armée et société, sur les droits du citoyen, ici de la citoyenne, et sur l'équité. Devant les résistances qui s'expriment, ce discours-là, le discours progressiste, est tenté par l'argumentaire féministe qui voit dans l'institution militaire non seulement un vestige du patriarcat, mais encore un organe dont la fonction manifeste est de le maintenir en cultivant la virilité. Ce que j'ai tendance à penser, à croire un peu outré. Je crois qu'on peut raisonnablement tenter qu'on peut le faire en tant que Français, en s'adressant aux anglo-saxons, on peut raisonnablement tenter d'apaiser ce débat en s'appuyant sur des recherches récentes qui montrent que si des différences existent entre hommes et femmes militaires dans la manière de servir, ces différences sont très minimes et que ça ne justifie pas l'inquiétude. Je renvoie pour ça un numéro spécial sur les femmes militaires qui est paru dans la revue que j'anime, revue électronique Res Militaris. On peut le faire aussi en se référant à l'expérience française des deux dernières décennies, expérience qui suggère que l'ouverture aux femmes des spécialités de combat ne voit venir à elles qu'une très faible proportion des candidats, ce qui bien évidemment n'est pas de nature à renverser la table, ni à susciter l'inquiétude pour l'efficacité combattante. Alors on peut faire le pari que si les logiques à l'œuvre dans les sociétés démocratiques occidentales sont bien les mêmes, il y a quelques raisons de le croire, alors l'exemple français a quelques chances de se reproduire ailleurs. En effet, si, ça c'est mon analyse propre, si vous voulez les détails, vous pourrez vous reporter à l'article que j'ai commis dans l'année sociologique en 2011 sous le titre la représentativité des armées et ses enjeux aujourd'hui. Si leur sous-représentation écrasante dans les fonctions cardinales de l'institution militaire ne semble pas trop poser de problème aux intéressés elles-mêmes, c'est qu'elles s'accordent assez bien à l'époque, celle que Anthony Giddens a nommée modernité tardive, ce par quoi il entendait que dans un contexte d'individualisation marqué par l'exigence de libre choix, le rejet des statuts assignés, une diversité d'identités désormais choisies, la représentativité a changé de sens. Elle n'est plus, comme au temps de la conscription et des allégeances citoyennes fortes qui avaient précédé la fin de la guerre froide, elle n'est plus appréciée arithmétiquement par comparaison de la composition sociale des armées avec une population de référence qui est soit la société en son ensemble, soit la population active. Comparaison qui avait pour but de s'assurer que la répartition des biens sociaux, des contraintes et des risques y était équitable. Aujourd'hui, la représentativité tend à s'apprécier de façon symbolique et qualitative. Comme on ne peut pas escompter des propensions uniformes de tous les groupes à vouloir s'engager dans tel ou tel type d'activité, il suffit à toute institution, les armées parmi d'autres, pour demeurer légitime, de reconnaître la légitimité propre et l'égale dignité des identités expressives dont sont porteurs ces groupes, notamment et surtout ceux anciennement soumis à des statuts restrictifs ou stigmatisés, bien le cas des femmes. Le seul impératif est que toutes les positions symboliquement enviables à leurs yeux leur soient ouvertes sans discrimination, bien sûr sous condition d'aptitude. Et l'exemple des femmes militaires françaises et des fonctions combattantes me semble parlant à cet égard. Le petit nombre d'entre elles qui se portent volontaires pour ces fonctions depuis que les quotas limitatifs ont été supprimés en 1998, suffit à représenter toutes les femmes et à faire disparaître le problème dès lors que les systèmes normatifs militaires et sociétal s'accommodent ensemble du nouvel équilibre. Alors si l'analyse est juste, la parité homme-femme en matière de combat dans les institutions militaires n'est pas exactement pour demain, et les controverses idéologiques auxquelles elle donne lieu dans les pays anglo-saxons, quelque peu vaines. Voilà, merci de m'avoir écouté.